Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait beau temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Soupeau.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Marseille, 31 mars 1899.
Quatre hommes progressent à travers les rues de la ville. Ils sont bien mis, bien rasés, bien coiffés et avancent tranquillement en direction du Mont-de-Piété. Une fois arrivés, ils tambourinent à la porte. Le prêteur sur gage, un dénommé Sieur Gilles, leur ouvre.
Messieurs, que puis-je faire pour vous ?
Bonjour monsieur, commissaire Jules Ponce, répond l'un des quatre hommes. Un informateur nous a signalé qu'on vous avait confié une montre volée à la suite d'un triple assassinat. Nous souhaiterions faire l'inventaire de votre stock et nous assurer que vous n'êtes pas complice de recel.
Le sieur Gilles, abasourdi, bafouille qu'il est parfaitement en règle et que, jusque-là, n'a jamais eu affaire à la police. Devant l'insistance des quatre hommes, le prêteur sur gage se résout à les mener à son dépôt. Les policiers procèdent alors à l'inventaire sous le regard interdit du sieur Gilles, de tous les objets mis en gage. Une broche en or,
une bague en argent,
un chandelier,
divers colliers et bijoux,
et enfin, la fameuse montre suspectée.
Commissaire, dit l'un des agents. « Je crois que nous tenons notre preuve. »«
Bien, saisissez-vous de toutes les pièces à conviction, » dit Ponce. « Quant à vous, nous allons de ce pas vous déférer devant le procureur. »
Le sieur Gilles proteste, clame qu'il est innocent, qu'il lui est rigoureusement impossible de connaître l'origine de tous les objets qui lui sont remis, et qu'évidemment, s'il avait su la provenance de cette montre, jamais il ne l'aurait acceptée. Mais les policiers ne veulent rien entendre, et munis du stock du Mont-de-Piété, mènent le sieur Gilles menotté au palais de justice de Marseille. » Une fois arrivé, ils le font asseoir sur un banc de la salle des pas perdus.
« Sieur Gilles, dit le commissaire Ponce, le procureur sera là dans quelques minutes. Vous allez pouvoir vous expliquer avec lui. Au revoir, monsieur. »
Aussitôt dit, les quatre hommes disparaissent, laissant le pauvre prêteur sur gage seul.
Les heures passent, toujours aucun procureur en vue. Le sieur Gilles menotté à son banc se morfond en s'imaginant le pire. Finalement, à bout de nerfs et de patience, il hèle deux gendarmes passant par là.
« Excusez-moi, messieurs, mais voilà maintenant 2 heures que j'attends que le procureur vienne me chercher. Le commissaire Ponce m'a pourtant dit que ce ne serait l'affaire que de quelques minutes. »
Les gendarmes, perplexes, se regardent. « Commissaire Ponce, ça te dit quelque chose à toi ?»«
Ouais, jamais entendu parler, hein. »
Le sieur Gilles se met à raconter sa mésaventure du jour. Ils comprennent vite que l'homme s'est fait rouler en beauté. C'est alors le branle-bas de combat dans tout le palais de justice. On envoie des gendarmes aux quatre coins de la ville pour retrouver ces prétendus policiers. Mais peine perdue, nos larrons ont pris la poudre d'escampette.
Le lendemain, 1er avril, les Marseillais découvrent à la une des journaux qu'un directeur du Mont-de-Piété a été victime d'un poisson d'avril qui lui a coûté cher. Dans les rues, le sujet est sur toutes les bouches. On commente, on admire le culot, mais surtout on rit de bon cœur. Parce qu'après tout, on ne va quand même pas s'apitoyer sur le sort d'un prêteur sur gage.
Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, dans la ville de Sète, quatre hommes réunis autour d'une table font le compte d'un fameux butin dans la joie et l'allégresse. Parmi eux, un homme, la tête pensante de l'opération, Alexandre Marius Jacob.
Alexandre Marius Jacob, figure célèbre de l'anarchie libertaire du début du XXe siècle, a fait couler beaucoup d'encre de son vivant et bien longtemps après sa mort.
Adulé par certains, voyant en lui l'archétype du cambrioleur à la Arsène Lupin, la légende dit d'ailleurs qu'il aurait inspiré ce personnage à son créateur Maurice Leblanc, honni par d'autres, le considérant comme un vulgaire voyou profitant du courant libertaire pour commettre ses forfaits en toute impunité. Quoi qu'on en dise, une chose est sûre. Le bonhomme ne manquait pas de panache et d'humour, à l'image de l'arnaque du Monde-Piété perpétrée un 31 mars pour être médiatisée le lendemain, c'est-à-dire un 1er avril.
Mais avant tout, revenons un peu en arrière, et plus précisément le 28 septembre 1879, date de naissance de Jacob. Il naît dans le quartier du Vieux-Port à Marseille. Ses parents, Marie et Joseph, à ça ne s'invente pas, hein, sont tous deux artisans boulangers. La famille Jacob ne roule pas sur l'or, mais Alexandre passe une enfance relativement heureuse dans cette ville cosmopolite, qu'est le Marseille de la fin du 19e siècle. Il lit beaucoup, en particulier les grands romans d'aventure de Dumas, Stevenson et Jules Verne. C'est un bon élève, mais il rêve d'évasion à la façon de ses héros littéraires et c'est pourquoi en 1890, Alexandre n'a que 11 ans, son certificat en poche, il s'engage comme mousse dans la marine.
C'est sur la mer qu'Alexandre va faire son apprentissage du monde. Il côtoie la haute société aristocratique et fait son éducation sexuelle auprès de vieilles bourgeoises folles de désir pour ce jeune et fougueux matelot. Mais il va aussi découvrir la brutalité du monde qui l'entoure à travers les différents pays qu'il va visiter et fait le constat que la misère et la violence sont monnaie courante dans à peu près toutes les parties du globe. À mer, il déserte la marine alors que son bateau fait escale à Sydney.
Puis, de fil en aiguille, il va se retrouver membre d'un équipage pirate, situation propre à éveiller son imaginaire romanesque. Mais là encore, c'est la désillusion. La piraterie d'alors n'a plus rien en commun avec l'idée qu'il s'en fait, c'est-à-dire celle des bandits au grand cœur, dotés d'un fort esprit de camaraderie, défendant l'opprimé et libérant les esclaves, des anarchistes avant l'heure, pourrait-on dire. Au lieu de quoi, Jacob va s'avérer être le témoin de massacres, de viols et autres crimes de la part de ses compagnons d'équipage.
Lui qui pensait vivre des aventures trépidantes revient finalement à Marseille, le cœur lourd, ayant le sentiment d'avoir perdu sa part d'innocence et tire un trait définitif à sa carrière maritime. Il dira plus tard, parlant de ses jeunes années autour du globe, « J'ai vu le monde, il n'est pas beau. » Désormais, Jacob, malgré ses illusions perdues, va s'efforcer de changer le monde à sa manière.
Depuis son retour dans sa ville de naissance, Alexandre enchaîne les petits boulots. Apprenti typographe, pharmacien. Par l'intermédiaire de quelques camarades, il se met à fréquenter les milieux anarchistes alors en vogue à l'époque. Et c'est pour lui une révélation. Il épouse parfaitement la doctrine libertaire individualiste que l'on pourrait résumer à ce qu'en écrit Émile Rinaldin dans un article de l'Agitateur, journal anarchiste, en 1897.
Je suis anarchiste individualiste parce que je réclame, je veux la satisfaction complète, intégrale de tous les désirs, de tous les besoins de mon individualité, de mon moi.
Je suis anarchiste individualiste parce que toutes les aspirations de mon moi tendent vers ce but. Le bonheur.
Je suis anarchiste altruiste parce que j'aime mon prochain comme moi-même, parce que le spectacle de sa souffrance, de sa détresse, de sa misère m'émeut et m'afflige douloureusement.
Je suis anarchiste révolté parce que, ayant au cœur l'amour profond et sincère de l'amitié, toute iniquité me révolte.
Dans un contexte social peu favorable aux idées anarchistes, la France est alors en pleine période d'attentat, menée entre autres par Ravachol, auteur de plusieurs explosions à la bombe, qui finira guillotiné, et avec en point d'orgue l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, par un jeune anarchiste italien répondant au nom de Sante Geronimo Caserio.
Il n'est donc pas de bon goût de se revendiquer anarchiste à l'époque.
En 1897, Jacob est emprisonné à 6 mois de prison. Suite à une perquisition chez lui, on a trouvé un livre sur la manière de fabriquer des bombes artisanales qu'un ami anarchiste lui avait demandé de garder. À sa sortie, il est l'objet d'une surveillance accrue de la part de la police qui guette le moindre de ses faits et gestes. À tel point qu'à chaque fois qu'Alexandre trouve un nouveau travail, la police fait pression sur l'employeur pour mettre le jeune homme à la porte.
Mais ça ne s'arrête pas là. Un jour, la police perquisitionne le domicile des Jacob. N'ayant rien trouvé de compromettant, l'un des officiers se rabat sur la bague de fiançailles de la mère d'Alexandre, qu'il confisque sous prétexte qu'elle est trop belle pour une pauvre comme elle. Encore une étape supplémentaire dans la haine d'Alexandre contre les supposés gardiens de la paix et à tout ce qui a trait à l'autorité en général.
Il tombe peu à peu dans l'illégalisme et suite au coup d'éclat du Mont-de-Piété, continue son apprentissage du vol et du cambriolage de maison avec son complice Antoine Roch, alias commissaire Ponce. Il est finalement arrêté une fois de plus à Toulon, le 3 juillet 1899, dénoncé par son propre père, à qui il ne pardonnera jamais.
Après avoir fait ses preuves dans l'art du déguisement, Jacob met en avant son art de comédien. Il simule face au juge la folie et obtient un gain de cause en étant transféré à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, pour la simple et bonne raison qu'il est toujours plus simple, selon lui, de s'évader d'un établissement médical que pénitentiaire. Et en effet, quelques mois plus tard, grâce à la complicité d'un infirmier, il joue la fille de l'air.
Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip, to take a trip. This world's so bad, you feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad, a world of frogs and green fountains and flying dogs and silver cats and emerald rats and purple clouds and faceless crowds and walls of glass that never pass and pictures hanging upside down. You won't ask where you are. It's another world, you and your girl and all your friends will all be there. Oh yeah, let's take a trip. TNT, SOS, HOP, TOP, top, it's the top. Hey, here we go now. Let's climb some mountains, everybody. Get on your walking shoes. Start to climb some mountains. Hey, here we go. Let's take a trip. Let's take a trip. Let's start to dream. Let's close our eyes. It's groovy now. Yeah. It's all around. Let's take a trip. Climb from the ground. Whoa! Whoa! Oh, yeah. Let's take a trip. It's really hip. No one will know what goes on. Just you and me and the dreams we see. Oh, come on, baby. Oh, come on, baby. You're doing it right. Just put your head back.
Vous écoutez bien Prosopopée sur Radio Bartas, 107 FM.
Suite à cette évasion, Jacob tente de se faire oublier un tant soit peu des forces de l'ordre. Il s'installe alors à Montpellier et prend en gérance un magasin de quincaillerie.
Rangé, le Jacob ?
Absolument pas, car toujours dans sa volonté de mêler l'utile à l'agréable, il profite de sa nouvelle profession pour se faire livrer les modèles dernier cri des coffres-forts. Et ainsi, en toute tranquillité, à l'arrière de sa boutique, il se met à en étudier les mécanismes, s'entraîne à les crocheter pour qu'à la fin, plus un coffre-fort ne lui résiste.
Et c'est à cette période qu'il commence à réunir autour de lui une bande d'anarchistes. Car Jacob, fort de son expérience en cambriolage, veut passer à la vitesse supérieure. Après avoir lu Kropotkine, Proudhon, Malatesta et la plupart des grands penseurs anarchistes, Alexandre Jacob est convaincu que la propagande par le fait, c'est-à-dire l'acte de poser des bombes, est contre-productif. Tous ces attentats, outre leur efficacité souvent aléatoire, n'ont fait que discréditer la cause aux yeux de l'opinion publique et ont surtout permis la mise en place des lois scélérates. À partir de 1893, suite aux séries d'attentats anarchistes, le gouvernement français décide de dissoudre les organisations libertaires, d'interdire les journaux anarchistes et toute autre forme de propagande, de quelque nature qu'elle soit. En clair, la liberté d'expression en prend un sacré coup.
Jacob, lucide, décide de reprendre une phrase de Proudhon à son compte. La propriété, c'est le vol. Eh bien, dans ce cas, il va s'inscrire dans une démarche de reprise individuelle et ainsi voler aux voleurs.
La nouvelle bande de cambrioleurs se baptise les travailleurs de la nuit.
Extrêmement bien organisés, ils sévissent dans toute la France et procèdent de manière quasi systématique. Un éclaireur est envoyé dans un coin de campagne. Il prospecte plusieurs jours, repère les grandes demeures bourgeoises, glane des informations, vérifie que la maison ciblée est bien inoccupée en plaçant des scellés, c'est-à-dire des petits bouts de carton sur la fente des portes. Une fois tout cela assuré, il prévient par écrit ses compagnons qui le rejoignent. La grande astuce de Jacob est d'opérer en fonction des horaires de chemin de fer. Après avoir cambriolé une maison, les travailleurs de la nuit sautent dans le premier train et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, ce qui laisse la police complètement désœuvrée.
En plus de l'efficacité dont ils font preuve, les travailleurs de la nuit sont régis par des principes fondamentaux qu'en aucun cas ils ne doivent transgresser. Premier principe, éviter à tout prix de verser le sang.
Deuxième principe, ne voler qu'aux représentants et défenseurs de l'ordre social comme les patrons, les juges, les rentiers, les militaires, le clergé.
Troisième principe, ne jamais voler les professions dites utiles telles que les médecins, les artistes, les enseignants.
Et enfin, quatrième et dernier principe, le plus important pour Alexandre Jacob, 10% de chaque vol sera reversé à la cause anarchiste.
Cette dernière clause fera grincer des dents nombre de travailleurs, estimant le droit de s'accaparer la totalité du butin au vu de tous les risques pris. Mais Jacob restera intransigeant. On s'apercevra plus tard que lui-même reversait presque la totalité de tous ses biens à des instituts de charité d'enfants pauvres.
Basé désormais à Paris, les travailleurs de la nuit, qui ont maintenant plus à voir avec une entreprise bien huilée qu'à une bande désorganisée, accumulent les cambriolages dans la France entière. Après chaque coup, Alexandre s'amuse à signer ses méfaits au nom d'Attila, le fléau de Dieu, en laissant des mots tels que
« Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui ont volé d'autres »
ou encore
« Au juge de paix, nous déclarons la guerre ». Un jour, alors qu'il cambriole à Rochefort, la maison qu'il croit appartenir à un capitaine de frégate du nom de Julien Viot, il réalise qu'il se trouve en fait dans la propriété de l'écrivain Pierre Loti. Ni une ni deux, ils obligent ses complices à remettre tous les objets à leur place et quittent les lieux en ayant soin en préalable de laisser ce mot à l'attention de l'écrivain. « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila. P.S. 6 juin, 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. »
Mais s'il y a un cambriolage qui va marquer les esprits, c'est sans doute celui de la rue Quincampoix. Jacob va ici faire preuve d'une ingéniosité sans faille et commettre un vol parfait.
Nous sommes le 28 septembre 1901. Un dénommé Guillou se présente au concierge de l'immeuble du 76 rue Quincampoix à Paris. Ayant entendu parler d'un appartement vacant au 5e étage, il désire le louer. Après de longues minutes de pourparlers, Guillot, ou plutôt, vous l'aurez reconnu, Alexandre Jacob, passé maître dans l'art de se grimer, obtint gain de cause et dès le 4 octobre, il pose ses valises dans son nouveau logement. Il va de soi que si Jacob a décidé de s'installer rue Quincampoix, ce n'est pas pour le charme indéniable de cette petite rue nichée dans le cœur de Paris, mais bien pour l'un des locataires de l'immeuble situé un étage en dessous du sien, au 4e. Son métier ? Bijoutier.
Jacob sait de source sûre que sa future cible a pour habitude de passer tous ses dimanches à la campagne, en plus de posséder chez lui un coffre-fort bien garni. Le dimanche 6 octobre donc, pendant que Jacob prépare ses outils, un complice suit le bijoutier jusqu'à la gare Saint-Lazare pour s'assurer qu'il prend bien son train. La voie étant libre, Jacob et ses sbires se mettent au travail. Pour être certain de ne faire aucun bruit qui pourrait éveiller les soupçons, Alexandre Marius Jacob a un plan brillant. Il commence par creuser un trou dans le plancher séparant les deux appartements, suffisamment grand pour faire passer un parapluie. Puis, l'ayant déplié, les voilà libres d'agrandir le trou en laissant retomber les gravats au creux du parapluie. Le même jour, alors que la nuit tombe, le bijoutier rentre chez lui et a la mauvaise surprise de constater que son coffre-fort a été entièrement dévalisé. L'affaire fera grand bruit dans le pays. Les policiers eux-mêmes s'inclineront face à tant d'ingéniosité.
Et ainsi va la vie de Jacob et de ses travailleurs de la nuit, qui par leur rapidité de mouvement et la ruse dont ils font preuve, semblent intouchables. On estime qu'entre 1900 et 1903, la bande a commis entre 150 et 500 cambriolages à Paris et en province. Jusqu'à ce jour d'avril 1903.
Jacob et deux membres de sa bande sont en tournée, à Abbeville dans la Somme. Alors qu'ils sont en pleine action dans une maison cossue de la ville, Les trois hommes sont repérés par des voisins qui s'empressent d'aller donner l'alarme au commissariat le plus proche. Nos hommes prennent la poudre d'escampette et, chose rare pour quelqu'un comme Alexandre qui ne laissait jamais rien au hasard, cette fois-ci, n'ont aucun plan pour s'enfuir.
Les voilà donc à errer la nuit en pleine campagne picarde. Ils suivent les rails d'une voie de chemin de fer et arrivent vers 2h du matin à la gare de Pont-Rémy. À cette heure-ci, plus aucun train ne circule. Ils attendent donc toute la nuit. Enfin, au petit matin, au moment de monter dans le wagon, ils tombent nez à nez avec deux gendarmes alertés par le cambriolage de la veille.
La confrontation dégénère, des tirs de pistolet éclatent, un agent est tué, un autre blessé grièvement. Les cambrioleurs prennent la fuite séparément, mais sont finalement arrêtés, tous trois, et mis en prison.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Le procès d'Alexandre Jacob et de sa bande de travailleurs s'ouvre 2 ans plus tard à Amiens en 1905. Des journalistes du monde entier sont là, curieux de voir ce fameux Robin des Bois de l'anarchisme, décrit par les journaux majoritairement bourgeois, comme un bandit de la pire espèce. Tout au long de ce procès hors nomme, une vingtaine d'accusés sur le banc, des centaines de témoins appelés à comparaître et autant de pièces à conviction. La France va découvrir un personnage extrêmement séduisant, qui ne va pas se contenter de se défendre, mais au contraire va attaquer et pointer du doigt une société qu'il juge défaillante.
Dans la salle d'audience, il étonne par sa verve et sa truculence, n'hésitant pas à multiplier les provocations, le plus souvent avec humour, ce qui amuse follement l'auditoire. À la question du juge qui demande à savoir pourquoi Jacob, habitant Paris, a si peu cambriolé dans la capitale, celui-ci répond qu'il respectait alors les consignes du ministère et faisait dans la décentralisation. Plus tard, alors que le président s'embrouille dans l'énumération des vols commis par Jacob, ce dernier le reprend en lui disant
« Mais excusez-moi, monsieur le juge, vous faites erreur. Alors pour envoyer les gens à l'échafaud ou au bagne, je ne dis pas vous êtes compétent, hein, mais alors en matière de cambriolage, excusez-moi de vous dire que vous ne comprenez rien. C'est pas à moi que vous allez apprendre le métier. »
Et durant tout le procès, Alexandre Jacob va faire preuve de beaucoup de répartie, plaçant les bons mots là où il faut, et tout cela va avoir un impact énorme sur son auditoire. La presse bourgeoise elle-même ne pourra s'empêcher de relayer dans ses journaux les mots d'esprit de l'anarchiste. Alors qu'au début du procès, la foule s'exclamait « à mort » ou « au bagne », à présent l'on peut entendre « vive l'anarchie ».
Et les jours suivants, Jacob va profiter pleinement de cette formidable tribune qu'est son procès pour développer ses idées libertaires. Lorsque le juge lui demande « pourquoi lui et sa bande cambriolaient autant les juges et les magistrats ?», il répond
« malgré les progrès réalisés, l'homme est toujours un loup pour l'homme ». Il s'arroge le droit de juger les hommes, mais il ne met sa justice qu'au service des riches contre les pauvres. Les magistrats ne peuvent subsister que dans une société corrompue. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir dévalisé davantage.
Et tout le monde va en prendre pour son grade, les rentiers, les prêtres, les militaires. Voyant la situation leur échapper, les magistrats, lors du 11e jour de procès, vont profiter d'un incident pour exclure les accusés du tribunal et continuer sans eux. Dans de telles conditions, le procès va continuer tranquillement vers sa fin. Et ainsi, le 22 mars 1905, après 11 heures de délibération du jury, Alexandre Marius Jacob est condamné au bagne à perpétuité.
Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui,
je le sais, je suis un évadé. Oh, 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 faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Oh, 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 supporter un ciel noir trois jours sur deux. Je suis un évadé. Oh, 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 faut-il vraiment se laisser emprisonner? Oh, 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 pour connaître le prix de la liberté. Un évadé. Oh, 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 est-il nécessaire de perdre la vue? Oh, 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 pour espérer les soleils disparus. Je les vois briller. Je suis un évadé. Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Oh, 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 ne saura jamais ce qu'est la liberté. Je suis un évadé.
Jacob arrive au bagne de Cayenne le 13 janvier 1906. Il a alors 26 ans et ne se fait plus d'illusions. Sa carrière de cambrioleur s'arrête ici. À Cayenne, l'espérance de vie est de 5 ans. Fidèle à lui-même, il va tout faire pour conserver une activité intellectuelle soutenue en lisant énormément et en commençant à étudier le droit pour se défendre et défendre ses compagnons de labeur face aux injustices nombreuses commises par les geôliers.
Au bagne, la vie est dure. Jacob maigrit beaucoup. Heureusement, il continue d'entretenir une correspondance avec sa mère, dont il a toujours été très proche. Celle-ci, de l'autre côté de l'Atlantique, se démène comme jamais pour sensibiliser l'opinion sur le sort de son fils. Elle se lie avec de nombreux journalistes, des magistrats, des politiques, mais rien n'y fait.
Jacob entre en relation avec le célèbre journaliste Albert Londres venu visiter les bagnes. Il en résultera une série d'articles dénonçant les conditions atroces dans lesquelles vivent les bagnards. Ces reportages susciteront une vive indignation du côté de l'opinion et finiront par provoquer la fermeture des bagnes en 1938. Finalement, l'acharnement de Madame Jacob va permettre à son fils de voir sa peine se commuer à de la réclusion dans une cellule de prison française. Alexandre regagne donc l'Hexagone en 1925, après 19 ans de bagne et une dizaine de tentatives d'évasion. On ne se refait pas. Après un temps à purger sa peine à la prison de Fresnes, Jacob est libéré définitivement le 30 décembre 1927, à l'âge de 48 ans.
Suite à sa libération, il va être un temps vendeur à Paris au magasin Printemps. Puis, lassé par la vie parisienne, va s'installer à Reuilly, dans l'Indre, le pays où il ne se passe rien, comme il dira lui-même. Là, il va s'établir avec sa mère comme marchand ambulant en prenant son second prénom, Marius, qu'il fera inscrire sur son barnum car ça fait moins de lettres qu'Alexandre à écrire et donc ça revient moins cher. Délaissant du moins en acte les activités anarchistes, il va lier une profonde amitié avec le monde forain, retrouvant en son sein des idées de liberté chères à son cœur. Certes, on ne le reprendra plus en flagrant délit de cambriolage, mais, légende peut-être, on lui prêtera un ultime vol. Modeste certes, mais ayant pour but de se prouver qu'il n'a pas perdu la main.
Il mène une vie tranquille dans sa nouvelle bourgade avec sa mère, sa récente compagne qu'il épouse en 1940 et son chien. On sait de sources sûres qu'il rejoindra Barcelone en 1936 en pleine guerre d'Espagne. On ignore quel rôle il a tenu, sans doute qu'il souhaitait prêter main forte au mouvement anarchiste, alors en lutte contre l'armée franquiste. Il y restera peu de temps et reviendra dans l'Indre déçu. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et suite au décès de sa mère et de son épouse, il vieillit, entouré d'amis et de camarades de discussion.
Un dernier événement va marquer encore un peu la vie de Marius. En 1951, un dénommé Robert Passant vient toquer à la porte de Jacob. Le jeune homme de 25 ans, favorable aux idées libertaires, a entendu parler du vieil anarchiste et, sans réfléchir plus longtemps, a enfourché sa bicyclette pour le voir de ses propres yeux. Une amitié profonde naît entre les deux hommes, amitié renforcée au moment où Robert revient quelques mois plus tard avec sa femme Josette. Marius tombe fou amoureux de la jeune demoiselle et lui déclare sa flamme par courrier peu de temps après. Il est alors âgé de 74 ans, mais cette passion lui redonne ses ailes de jeune homme. Lui qui avait coutume d'avertir ses amis qu'il ne finirait pas comme un vieillard impotent et sénile et qu'il préférerait se donner la mort avant.
J'ai de la chance d'être en bonne santé et c'est le moment qu'il faut choisir pour se décrocher du train de la vie. Je les sens toutes là, autour de moi, ces salopes qui me guettent. Prostatique, angine de poitrine, sciatique, rhumatisme. Je leur fais la nique. Vive le bienfaisant repos. Partir sans espoir ni désespoir, quelle belle chute de rideau.
Il s'en confie d'ailleurs à Josette dans leur longue relation épistolaire. Celle-ci, installée au Maroc avec son époux, lui conjure de repousser cette idée et que s'il le souhaite, elle viendra passer du temps avec lui. Marius accepte, et chose promise, chose due, Josette s'installe plusieurs semaines au mois d'août 1954 avec la bénédiction de Robert.
Nous sommes le 28 août 1954. Ce jour-là, Marius, de nouveau seul, organise chez lui un repas avec des enfants défavorisés. La limonade coule à flot, les rires résonnent dans la maison de Reuilly. Puis Jacob raccompagne en voiture tout ce beau monde. Il fait le zouave, klaxonne à tout bout de champ, provoquant l'hilarité générale des mômes. En rentrant chez lui, il bouche les orifices de son salon, bloque le tirage de son vieux poêle à charbon, l'allume et s'injecte à son chien et à lui une dose de morphine pour une ultime évasion, celle dont on ne revient pas cette fois. Homme libre et intrépide toute sa vie, il sera resté fidèle à cette phrase qu'il avait prononcée durant son procès.
« Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. En termes crus, j'ai préféré être voleur que voler. »
Poussant cette logique jusqu'au bout, il aura décidé lui-même du moment où il s'arrêterait de vivre. Il laisse derrière lui ce mot.
« Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'ai la cosse, excusez. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetière. À votre santé. »
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.